Bonjour, merci de nous rejoindre sur VOA Afrique, émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce jeudi 1er février 2024. À la une de l'actualité ce matin, au Sénégal, un vote du Parlement alimente les spéculations sur la prochaine présidentielle. Au Cameroun, un homme d'affaires soupçonné d'avoir violé un très grand nombre de jeunes filles a été interpellé, des allégations qu'il rejette. Washington sanctionne 3 entités liées financièrement aux belligérants au Soudan. Et les États-Unis annoncent avoir détruit 10 drones des Houthis et 3 d'Iran. Pour commencer avec la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les quarts de finale débutent dès demain à Abidjan. Tous les matchs à l'affiche dans le journal de la CAN avec nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Deux grosses rencontres au programme demain. Les désormais redoutables Super Eagles, tombeurs du Cameroun en huitième de finale, font face à l'Angola au stade Félix Houphouët-Boigny à 17h temps universel et juste après à 20h au stade Alassane Ouattara. Toujours ici à Abidjan, la République démocratique du Congo fait face à la Guinée. La Guinée qui retrouve les quarts de finale d'une CAN près de 10 ans après. Bagassi Koura.
Face à la RDC en quart de finale vendredi, une victoire permettrait aux Guinéens de se hisser dans le dernier carré. Leur sélectionneur, Kabat Diawara, joueur à l'époque, avait pris part au quart de finale avec la Guinée en 2006. Depuis, plus rien.
Moi et mon staff, on vit un truc exceptionnel. Et vraiment, ça va au-delà du foot parce que vraiment, on travaille pour amener cette équipe loin. Après, ça peut paraître bizarre de l'extérieur de voir, ouais, ils pleurent, c'est qu'un huitième de finale. Mais nous, on sait pourquoi on pleure parce qu'on travaille, jour et nuit depuis 2 ans pour vraiment que ce groupe soit protégé et qu'il soit compétitif. Et là, on était vraiment au moment de vérité.
Lors de son match de huitième de finale contre la Guinée équatoriale, le Sili National avait bénéficié d'un grand soutien de ses supporters. Et le coach Diawara veut encore compter sur les fans guinéens.
On joue pratiquement à domicile. Il y a une très forte communauté guinéenne ici. Moi, j'ai même un grand frère qui est né ici. Et donc, vraiment, en Côte d'Ivoire, on est pratiquement en Guinée. On parle la même langue, on a la même religion. On est cousins, quoi. Donc, on est pratiquement à domicile. Et puis, les gens peuvent même venir en voiture. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment supportés ici. Mais l'objectif final de la Guinée, c'est de participer une première fois à la Coupe du Monde. Donc, il faut vous inscrire dans cette mentalité-là. Et si on vous prend, c'est pas que pour le fait que vous êtes des bons joueurs, il faut que vous soyez des exemples. Et il faut que vous soyez des locomotives vraiment pour le reste des joueurs européens, quoi, qu'on veut ramener. Et ils l'ont parfaitement compris. Ils le font. Et puis, j'ai aucun problème avec eux. Soit sur les horaires, la discipline, ça, c'est des joueurs formés. Donc, même sur les schémas tactiques et tout, j'ai pas besoin de parler 10 heures. Je leur dis une fois, ils comprennent, et puis ça se place, et puis ça fait, tu vois. Et ça fait plutôt bien. Donc là, on est là-dessus, et puis, Inch'Allah, après la CAN, on aura des bonnes recrues encore.
Depuis le début de la compétition, le capitaine de la Guinée, Naby Keïta, joue diminué par une blessure, ce qui gêne beaucoup son sélectionneur.
Moi, ce qui me dérange, c'est quand il est blessé, vraiment. À partir du moment où il n'est pas blessé, il se rend disponible pour la sélection. Là, c'est vrai que... Il n'a pas participé grandement, mais son rôle va au-delà du terrain. C'est l'un des plus anciens ici. C'est sa 4e participation à la CAN. Il connaît tout. Il connaît tout par cœur. Il guide les plus jeunes. Il emmène le groupe. Moi, il me sert de relais. C'est vraiment un leader positif. Et c'est rien de le dire parce que je vous assure que dans le groupe, il est beaucoup plus qu'un simple joueur.
C'est aussi le cas de l'attaquant de Stuttgart, Serou Guirassy. Énorme avec son club allemand, mais qui n'est pas toujours titulaire à l'attaque des Guinéens. Kaba Diawara explique.
Oui, c'est vrai que par ses performances, on ne peut pas mettre 17 buts comme ça en Bundesliga sans être un joueur spécial. Il est spécial, on le sait, lui-même le sait. Après, on est en Afrique, il y a des particularités. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe. Il y a la chaleur, le climat, les terrains. Et puis, on joue la Coupe d'Afrique. C'est une compétition extraordinaire. Et c'est un très haut niveau. Donc, il faut s'adapter. Et comme il a été blessé, donc il revient progressivement. Là, il est à 100%. Et on va voir comment on peut l'utiliser.
Ce retour de blessure de Serou Guirassy est donc une bonne nouvelle pour la Guinée qui aura besoin de tous ses moyens face à une solide équipe congolaise menée par son capitaine Chancel Mbemba.
Les deux derniers quarts de finale se jouent samedi à 17h au stade de la paix de Boaké. La Côte d'Ivoire fait face au Mali et à 20h, on aura Cap Vert Afrique du Sud au stade Charles Kona Bani de Yamoussoukro. Yacouba Ouidraogo, Bagassi Koura, Abidjan, pour VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal de la CAN. Ailleurs dans l'actualité, au Sénégal, l'Assemblée nationale a approuvé hier, lors de débats tendus, la création d'une commission d'enquête visant le Conseil constitutionnel, alimentant les spéculations sur une volonté de report de la présidentielle du 25 février. La demande de création de cette commission a été initiée par la coalition de Karim Ouad, personnalité disqualifiée par le Conseil constitutionnel. La coalition met en cause l'intégrité de deux membres du Conseil. Karim Ouad se félicite d'une première victoire. C'est une avancée majeure pour prévenir le chaos et sauvegarder la démocratie au Sénégal. Notre prochaine lutte est le report de cette élection présidentielle qui s'apparente à un simulacre, dit-il. Les États-Unis ont fait état hier de sanctions contre une banque et deux compagnies soudanaises qu'ils accusent de financer les partis en conflit au Soudan où une guerre civile fait rage depuis avril dernier. Michel Joseph.
Le Trésor américain a décidé de bloquer les actifs de la banque Al-Khalij et d'interdire aux entités américaines de traiter avec elle, au motif qu'elle représente une part essentielle du financement des forces de soutien rapide. Il a également sanctionné la société Al-Fakhr Advanced Works, qui, selon lui, a généré des millions de dollars pour les paramilitaires grâce à l'exportation d'or pour leur permettre d'acheter des armes. Aussi, le ministère américain de l'économie et des finances a ciblé la compagnie Zadna, qu'il accuse de blanchir de l'argent et de faire des opérations commerciales au profit de l'armée irrégulière. Cette guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 13 000 morts, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, et le déplacement de près de 8 millions de personnes. Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont encadré plusieurs fois des négociations pour mettre fin à ce conflit, sans succès jusque-là.
Également dans l'actualité au Cameroun, un homme d'affaires soupçonné de multiples agressions sexuelles et viols présumés a été interpellé hier matin à Douala, d'après la CRTV, la radio-télévision d'État du pays. La chaîne ajoute que l'arrestation du suspect Hervé Bobda ouvre la voie à la procédure judiciaire qui se chargera de répertorier des preuves contre lui. L'Ordre des avocats du Cameroun a réclamé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a également réagi. Marie-Thérèse Abena Ondoa s'est réjouie de la saisine des autorités judiciaires compétentes en vue d'établir la matérialité des faits. Elle a encouragé les victimes présumées à briser le silence. Des médias rapportent qu'Hervé Bobda a catégoriquement nié les allégations portées contre lui. Pascaline Bongo, fille d'un ancien président gabonais, est jugée depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Rosine Mounezero.
L'accusation soupçonne Pascaline Bongo d'avoir accepté d'intervenir en faveur de la société française Aegis Route, qui collabore avec SIFT, une société créée et dirigée par Pascaline Bongo, dans l'attribution de marchés publics contre la promesse de 8 millions d'euros de rétrocommission. Selon les enquêteurs, SIFT était une coquille vide, une société écran, sans bureau ni employé. Mais à la barre, tous les prévenus, trois anciens cadres supérieurs d'Aegis, l'homme d'affaires gabonais Frank Ping, qui reconnaît avoir une relation quasi-filiale avec Madame Bongo, ou l'avocate Daniel Palazzo-Gauthier, ami et ex-conseiller de Madame Bongo, contestent les accusations. Après la mort de son père, Pascaline Bongo a été complètement écartée du pouvoir. Elle ne pouvait prendre aucun acte engageant l'État gabonais, a soutenu mercredi Frank Ping. Dans cette affaire, 10 descendants de l'ancien président Omar Bongo, dont Pascaline, sont mis en examen depuis mars 2022.
Au Kenya, deux hommes ont été inculpés hier pour le meurtre du coureur de fond ougandais Benjamin Kiplagat, retrouvé mort poignardé le soir du Nouvel An. David Lokere et Peter Kalumi ont nié les faits lors de leur comparution devant un tribunal à Eldoret dans la vallée du Rift. Leur demande de mise en liberté sous caution a été refusée en raison de leur casier judiciaire et du risque de les voir prendre la fuite.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, retourne prochainement au Moyen-Orient au moment où les médiateurs tentent de parvenir à une nouvelle trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas. Nanit Talani.
Anthony Blinken, qui s'est déjà rendu à 4 reprises dans la région depuis le début de la guerre, partira dans les prochains jours, a déclaré un responsable sous couvert d'anonymat, sans préciser les pays qu'il va visiter. Il a exprimé lundi un réel espoir d'une éventuelle libération des otages encore retenus par le Hamas. Au total, 132 personnes sont toujours détenues, dont 28 seraient morts. Pour sa part, le Hamas a indiqué mardi qu'il réfléchit à la proposition de trêve formulée par des médiateurs lors d'une récente réunion à Paris en France. La première phase de cette proposition évoque une trêve de 6 semaines avec possibilité de prolongation. La dernière étape devrait porter sur l'échange des corps des personnes décédées et un accord concernant le contrôle des postes frontaliers de Gaza et la reconstruction du territoire.
L'armée américaine a fait état d'une série d'opérations militaires menées hier contre les rebelles houthis au Yémen qui menacent la navigation en mer Rouge, affirmant avoir détruit plus d'une dizaine de drones d'attaque, des missiles, de même qu'un poste de commandement. Les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, ont lancé un missile balistique anti-navire des zones qu'ils contrôlent au Yémen vers le golfe d'Aden. Le missile a été abattu par le US Carney, indique le CENTCOM, le commandement militaire américain au Moyen-Orient. Moins d'une heure après, le même destroyer a abattu 3 drones iraniens qui se trouvaient à proximité de lui, ajoute le CENTCOM. Et dans la soirée, des frappes américaines ont détruit 10 drones d'attaque et un poste de commandement des Houthis au Yémen, qui constituait une menace imminente pour les navires marchands et les navires militaires américains dans la région, toujours d'après le CENTCOM. En France, 100 d'agriculteurs ont été interpellés hier et la colère gronde dans le monde rural contre l'Union européenne.
Après une intrusion dans une zone de stockage du marché de Rungis au sud de Paris, 79 personnes ont été interpellées. Un peu plus tôt, il y a eu 15 autres interpellations. Depuis lundi, en France, des agriculteurs bloquent avec leurs tracteurs plusieurs autoroutes. Hier, plus de 80 blocages, 4500 engins et 6000 manifestants ont été recensés selon une source policière. En Italie, des milliers d'agriculteurs de la Sardaigne au Piémont ont manifesté. L'agriculture est en train de mourir. Pouvait-on lire à Cueno, dans le nord du pays traversé par 100 de tracteurs? En Espagne, des rassemblements ont été signalés dans le nord-ouest. Des agriculteurs portugais ont aussi appelé à une mobilisation ce jeudi avec des tracteurs et des machines agricoles. Il y a eu aussi des manifs en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Belgique. La colère se cristallise autour de la politique agricole commune des 27, jugée par certains déconnectée des réalités. Face à la grogne, la Commission européenne propose d'accorder pour 2024 une dérogation partielle aux obligations des enchères et envisage un mécanisme limitant les importations de volailles d'Ukraine.
Merci bien Lionel Gaïma. Je suis désolé pour tout ce que vous avez vécu. Le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est excusé hier au Sénat américain, interpellé sur les dangers des réseaux sociaux pour les enfants et adolescents lors d'une audition réunissant les dirigeants de Meta, de X, de TikTok, de Discord et de Snap, debout devant les victimes des dérives des plateformes numériques et leurs familles. Le patron de Meta a reconnu que personne ne devrait vivre les choses que vos familles ont subies. Ce sujet met d'accord les élus politiques des deux bords et de nombreuses associations qui accusent les réseaux sociaux de ne pas suffisamment protéger les plus jeunes, notamment contre les risques d'exploitation sexuelle ou de suicide. Le président américain Joe Biden se rend aujourd'hui dans le Michigan. La Maison-Blanche a dit qu'il s'agissait d'un voyage à visée purement électorale et l'équipe de campagne du démocrate indique seulement qu'il va rencontrer des membres du grand syndicat automobile UAW dans la région de Détroit. Le syndicat vient tout juste d'appeler à voter pour Joe Biden, un soutien qui peut peser lourd dans le Michigan, berceau de l'industrie automobile américaine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce premier jour du deuxième mois de l'an 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Cap d'emblée sur la République démocratique du Congo où des fissures se font jour dans le camp présidentiel après les élections générales du 20 décembre dernier et qui ont été remportées avec une très forte majorité. À l'approche de la mise en place d'un nouveau gouvernement, des factions se créent au sein de l'Union sacrée pour la nation, coalition qui a soutenu le président Félix Tshisekedi. Eddy Sango a joint à Bruxelles Billy Kambalé, le secrétaire général du parti UNC de Vital Kamerhe, qui vient de mettre sur pied avec d'autres dirigeants politiques une nouvelle plateforme appelée Pacte pour un Congo retrouvé.
Nous voulons juste renforcer la cohésion au sein de la famille. Vous savez que nous sommes partis aux élections avec plus de 500 partis politiques, mais qui étaient obligés de se regrouper dans des regroupements politiques pour affronter les élections. C'était déjà un début des regroupements des grandes formations politiques. Nous sommes partis des 500. Nous avons affronté les élections à peu près 48 regroupements politiques au sein de l'Union sacrée. Après les élections, évidemment, avec la formation des groupes parlementaires, mais surtout les gens qui réfléchissent de la même manière se sont regroupés et c'est ça la création du pacte pour un Congo retrouvé. Nous ne sommes pas seuls, d'autres regroupements sont en train de s'unir et donc il y aura 4, 5 ou 6 blocs au sein de l'Union sacrée et ça renforce la cohésion. Moi je trouve en tout cas, ceux qui diabolisent le PCR, moi je trouve que c'est juste parce qu'ils sont surpris, ils n'ont pas pu penser à se réunir, c'est tout ce que je peux dire.
Est-ce que ce n'est pas là une lutte de positionnement après ce que vous avez fait, les soutiens au président de la République? On sait qu'il y aura un dauphin à l'issue de au terme de ces mandats.
Non, pas du tout. Si c'était un problème de positionnement, nous sommes déjà bien positionnés. Nous sommes la deuxième force à l'Assemblée nationale. Donc si c'était un problème de positionnement, les élections elles-mêmes nous ont positionnés en deuxième position après l'UDPS, ça vous le savez. Donc c'est pas un problème de positionnement, c'est un problème de rassemblement des forces qui pensent de la même manière et qui veulent évoluer ensemble.
Qui font partie du PCR et qu'est-ce que votre mouvement vise exactement? Qu'est-ce que vous visez?
Non, le PCR, c'est 4 grandes formations. Il y a l'AINC qui est un regroupement avec ses mosaïques du président Vital Kamerhe. Il y a AAAP de Tony Kankou-Chigou qui a 32 élus au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a le AB50 de Julien Paluku avec 21 élus. Et puis le CODE de Jean-Lucien Boussa, le ministre du Commerce extérieur, qui a 9 élus. Et donc nous pensons qu'ensemble, si nous réfléchissons et que nous apporter, puisque le président de la République a annoncé des grands chantiers, et pour ça, il faut une réflexion en profondeur pour la transformation de notre société. Donc, pour nous, c'est un groupe de réflexion qui pense et qui conçoit les idées pour aider le président de la République.
Billy Kambalé, le secrétaire général de l'UNC, du dirigeant congolais Vital Kamerhe.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Dans la foulée du Mali et du Burkina, les autorités nigériennes ont indiqué il y a 2 jours avoir notifié la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest de la sortie de leur pays du bloc. La note envoyée à la CEDEAO fait démarrer le délai d'un an avant que le retrait ne prenne effet. La décision des 3 États sahéliens est décrite comme un nouvel acte de rupture aux conséquences potentiellement lourdes pour l'économie et la stabilité politique de la région. De nouvelles réactions ce matin avec Abdulrazak Idrissa, notre correspondant au Niger.
L'une des implications de cette décision de retrait des 3 pays de la CEDEAO lorsqu'elle sera effective est la perte des avantages communautaires dont le plus connu reste la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace. Les citoyens des États membres n'ont pas besoin de visa pour séjourner dans l'un des pays et le tarif extérieur commun facilite aux commerçants les transactions. Chebu Chambiano, secrétaire général d'un des syndicats des commerçants de la place.
Le tarif extérieur commun de la CEDEAO permet, lorsque nous produisons au Niger, prenons l'exemple du ciment, il peut aller librement circuler dans les 15 pays de la CEDEAO. Donc c'est un avantage que nous allons perdre.
Ce sont donc beaucoup de facilités qui seront ainsi perdues, même si sur le terrain, LHJ Yacouba Damaradi, responsable de notre syndicat de commerçants importateurs-exportateurs, relativise ces facilités sur le terrain.
Il n'y a pas de facilité à partir du moment où nous rançons. À partir du moment où, en fait, le couloir que nous empruntions, c'était le couloir béninois le plus. Mais on est rançonné. On a été toujours malmené. On a été toujours rançonné. On a été toujours soumis à des taxes illégales, illégitimes. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé.
Ce sera sans doute donc difficile pour eux comme pour tous les autres, mais s'inscrivant dans la dynamique collective actuelle, Chebu Chambiano et Elhaj Yacouba Damaradi sont animés par beaucoup d'espoir.
Il faut s'armer de courage pour affronter cela. On sait que peut-être dans l'avenir, on peut renverser la tendance. Au lieu que nous soyons un pays importateur, nous allons être un pays exportateur.
S'il y a conséquences, elles ne peuvent être que bénéfiques. C'est-à-dire qu'il y a l'euphorie du début, mais après, quand les choses vont s'étasser, les gens vont comprendre que vraiment, c'est une belle décision. On ne peut pas faire des omelettes et vouloir des ces œufs. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir, on peut pas vouloir son beurre et vouloir aussi la région de son beurre. Il y a quelque chose à mettre. Et ça, nous allons le mettre.
Des espoirs partagés par l'acteur de la société civile, Abdou Maman Lokoko.
Quand on regarde de près, effectivement, ces trois pays n'ont pas accès, effectivement, à la mer. Mais la situation de laquelle nous sommes aujourd'hui, elle n'est pas aussi pire que si on n'est plus dans la CEDEAO. Puisque déjà, les sanctions, vous voyez, c'est l'air seulement que nous, en tout cas pour le cas du Niger, c'est l'air seulement qu'on ne nous a pas bloqué.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. La décision de ces trois pays dirigés par des militaires et qui viennent de créer l'Alliance des États du Sahel a envoyé une onde de choc dans la région, relançant le débat sur l'avenir du bloc régional. La CEDEAO se dit prête à négocier avec les trois pays. Quelles sont les implications d'une telle décision, notamment sur l'intégration et la sécurité régionale? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
La troisième édition du Salon international du coton et du textile s'est tenue le week-end dernier à Kédougou au Burkina Faso. L'événement se veut d'améliorer la production, la transformation et la commercialisation des produits textiles. Pour des participants, le coton est à même de pouvoir aider à booster l'économie, mais le secteur requiert des mesures d'accompagnement. Le reportage sur place de notre correspondant Lamine Traoré.
Le Salon international du coton et du textile a pour objectif, selon les autorités, de promouvoir la filière coton et textile de l'Afrique et de renforcer les échanges et les partenariats entre les acteurs du secteur. La transformation locale du coton, quel modèle d'industrialisation dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine a été le thème cette année? Sébastien Bazemo est styliste.
Avec ce cycle-là, je pense qu'il est vraiment temps qu'on prenne les choses au sérieux. Parce que c'est vrai, chaque année, on fait les gros discours, les mêmes paroles, et on revient, c'est toujours la même chose. Et j'espère que ce dernier cycle-là va nous amener à mieux réfléchir, à prendre les choses plus au sérieux.
Le Togo, qui ambitionne de développer davantage sa filière cotonnière en misant sur la qualité, la créativité et la compétitivité, est-elle l'invité d'honneur à cette édition? Afaoubo Afi Akuyovi, chef de la délégation togolaise.
À l'instar du Togo, le coton et le textile sont des produits stratégiques pour de nombreux pays africains car ils contribuent de manière significative à la croissance économique, à la création d'emplois et à l'augmentation des exportations. L'Afrique possède un énorme potentiel dans ce domaine avec des conditions climatiques favorables à la culture du coton et des ressources humaines talentueuses et créatives.
Les États africains doivent faire davantage d'efforts en ce qui concerne la transformation de l'or blanc. Serge Poda, ministre burkinabé du Commerce.
Malgré les nombreux efforts consentis par les différents États africains pour accompagner le secteur du coton textile, la plupart des pays producteurs restent toujours confrontés au défi de la transformation locale du coton et de la valorisation de ses produits dérivés. À titre illustratif, l'Afrique francophone, qui est la plus grande zone productrice de coton africain, transforme moins de 1% de sa production annuelle de fibres.
Au moins 1500 professionnels venant de 39 pays d'Afrique et du monde ont pris part à l'édition du Salon international du coton et du textile. Tous espèrent que les États africains parviendront bientôt à transformer localement le coton. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'Afrique est la région qui a le plus faible taux d'investissement en commerce électronique à cause du faible pourcentage de la population ayant accès à des comptes bancaires et de l'absence d'adresses fiables pour les livraisons. C'est l'avis de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Sedan Outorde a rencontré un entrepreneur à Accra, au Ghana, qui utilise un outil d'intelligence artificielle permettant de faciliter son travail. Nathalie Barge relate son histoire.
Doffman Foods est une entreprise de restauration ghanéenne inspirée d'un mets traditionnel appelé le bofrot, un beignet garni fait maison. La plupart de ses clients dépendent des services de livraison pour faire des surprises à leurs proches lors d'occasions spéciales. Mais beaucoup n'ont pas d'adresse postale officielle et certains n'ont pas non plus de compte bancaire. Francis Kofiga, directeur de Doffman Foods.
Pour la Saint-Valentin, nous n'avions que deux téléphones et nous devions répondre à quelques 200 commandes. Ce sont les personnes qui envoient des SMS et appellent pour passer des commandes au cours d'une seule journée. Nous n'avons donc pas pu tout traiter et nous avons manqué des détails de certaines commandes. C'était très mouvementé.
Depuis lors, M. Kofiga a commencé à utiliser un outil d'intelligence artificielle, Chatbots Africa, de la compagnie M-Notify, basée à Accra.
Le chatbot est capable de prendre la commande, de mémoriser tous les détails et de donner le lien de paiement. Il nous indique si le client a payé ou non, ou s'il souhaite payer cash à la livraison. Il prend soin de tous ces détails, très transparent. C'est très transparent.
Il affirme que son activité a augmenté de 25% grâce à Chatbot Africa, qui permet aux clients d'utiliser des systèmes de paiement locaux comme l'argent mobile et de partager des emplacements pour la livraison. L'intelligence artificielle traduit cela en un simple SMS adressé aux entreprises et aux livreurs. Le directeur de M-Notify, Ronald Tago, affirme que l'outil est facile à mettre en place pour les petites entreprises.
Nous avons le portail web où, sans avoir aucune compétence en informatique, il vous suffit de créer un compte, de le lier à un numéro de téléphone connecté à votre WhatsApp, votre page Instagram ou Facebook et de télécharger vos produits et c'est tout.
M-Notify développe d'autres outils pour combler le déficit du commerce électronique, comme la reconnaissance vocale pour les personnes analphabètes.
Alors imaginez un vendeur sur le marché qui ne sait ni lire ni écrire. Il a ainsi la possibilité de vendre ses tomates et légumes à d'autres personnes analphabètes grâce au pouvoir de la voix.
Les experts du commerce électronique affirment que l'introduction de l'intelligence artificielle sur le marché va contribuer à améliorer les ventes et à réduire la pauvreté, en particulier pour les communautés marginalisées du continent africain.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 1er février 2024. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagno, à la technique Kelvin Fowler. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine, je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. Take care, comme on dit en anglais. À très bientôt. Au revoir.